Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La violence et la guerre paralysent notre continent. Trop nombreux sont les innocents tués par les conflits. Trop nombreux sont les citoyens qui ne peuvent exercer les plus fondamentaux de leurs droits de l'homme. Trop nombreux sont les enfants qui n'ont pas la moindre possibilité de mener une vie simplement normale. Et trop nombreux sont les dirigeants qui ne connaissent toujours que la raison du plus fort veulent régler les différends par la force des armes.
Il faut dire que depuis le début de son mandat à la tête de l'ONU, il est confronté à de nombreux foyers d'affrontement sur le terrain. L'Afrique est déchirée de part en part par des conflits souvent provoqués par des chefs de guerre avides de pouvoir. Une situation qui le préoccupe d'abord en tant que secrétaire général de l'ONU, mais aussi et surtout en tant qu'Africain. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Si les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et les guerres que les USA vont lancer en représailles d'abord contre l'Afghanistan puis contre l'Irak, accusé de posséder des armes de destruction massive, occupent l'ensemble des manchettes planétaires, en Afrique, on a le regard tourné surtout vers une autre crise qui secoue l'un des pays phares, la vitrine de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire.
Première édition d'Afrique Soir, largement consacrée une fois de plus, vous vous en doutez, à la situation en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de faire le point à l'heure qu'il est, notamment sur ce qui se passe à Bouaké, la deuxième ville du pays, située à 400 km de la capitale, Abidjan. Une reprise de la ville par les troupes gouvernementales semblait imminente. En tout cas, elle a été annoncée ce matin en Conseil des ministres par Moïse Lida Kouassi, le ministre chargé de la Défense. Il a donné jusqu'à la nuit aux mutins pour se rendre. « Nous sommes toujours là », nous disait l'un d'entre eux il y a quelques instants. La revendication de ces soldats perdus semble incertaine. Ils sont prêts à discuter avec le ministre, mais ils veulent que celui-ci les appelle directement. Sur la scène internationale, cependant, la condamnation de la tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire est à peu près unanime, aussi bien à l'ONU qu'en France. On retiendra surtout pour le moment celle de l'Union africaine, qui estime que désormais ce genre de pratique est hors la loi. Seuls les changements de régime par la voie constitutionnelle sont acceptés en Afrique. C'est la position officielle des pays membres.
Cette attaque qui vise à renverser le président Laurent Gbagbo, élu 2 ans plus tôt, va diviser le pays. Les rebelles se replient dans la moitié nord. C'est l'impasse. La France, qui refuse de mettre en œuvre les accords de défense, estimant qu'il s'agit d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, va néanmoins proposer de servir de médiateur entre les deux protagonistes. À l'issue d'une conférence en forme de huis clos, un accord est signé en janvier 2003 entre les rebelles du Nord et les forces gouvernementales à Linamarkoussi, en banlieue parisienne.
L'hymne national ivoirien chanté par tous. Cette nuit, fin du suspense, 9 jours d'âpres négociations et un accord de dernière minute qui, officiellement, satisfait toutes les parties. Premier acte, choisir un Premier ministre de consensus. Il dirigera un gouvernement d'unité nationale élargie et sera chargé d'organiser de nouvelles élections crédibles et transparentes. Ce nouveau Premier ministre devra également lancer une grande vague de naturalisation. Enfin, les rebelles devront déposer les armes sous le contrôle des forces d'interposition africaines et françaises. Le président Gbagbo reste donc au pouvoir. Une mesure qui inquiète ses principaux opposants.
Nous avons quand même la crainte, puisque nous prétendons le connaître, nous avons la crainte que, étant là, comme il va être là, il faut être vigilant.
Eux aussi sont vigilants, voire sceptiques. L'accord qui vient d'être signé loin de chez eux ne les ravit guère. Ici, dans le sud de la Côte d'Ivoire, fief du président Gbagbo, on se dit choqué. Les ennemis rebelles entrent au gouvernement.
Ça nous choque. Ça voudrait dire que désormais, pour entrer dans un gouvernement, on se rabat sur une région de la Côte d'Ivoire, on prend des armes, on tue des gens, et puis vous rentrez dans un gouvernement. C'est ça qui nous choque.
L'une des dispositions de ces accords, qui attribue des ministères régaliens à l'ex-rébellion, va déclencher le 4 février 2003 des émeutes anti-françaises à Abidjan. Pour soutenir la mise en œuvre des dispositions de cet accord, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise par sa résolution 1479 du 13 mai la mise sur pied d'une mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. connu sous son acronyme MINUSI. En raison de la persistance de la dégradation du climat sociopolitique dans le pays et la crainte de voir cette situation déstabiliser l'ensemble de la sous-région, le Conseil de sécurité décide de créer par la résolution 1528 du 9 mars 2004 l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUSI, qui remplace la MINUSI et renforce son mandat. Outre la tâche d'appuyer l'accord de paix signé par les parties ivoiriennes à Lina Marcoussi, en France, il prévoit le désarmement des rebelles et des milices se réclamant de Laurent Gbagbo, ainsi que la préparation des élections présidentielles prévues en 2005. Cette opération multidimensionnelle a pour mission de surveiller la zone de confiance, une étendue de terre qui séparait le sud loyaliste et le nord rebelle, contrôlé par l'opposition, tout en rétablissant la confiance entre les belligérants pour réunir le pays. La résolution dote l'ONUSI de 6000 hommes qui seront portés à 11 792 au plus fort de la crise en 2011 et autorise des forces françaises de l'opération Licorne sur le terrain à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l'ONUSI. Kofi Annan sera à Accra au Ghana pour le rendez-vous dit d'Accra 3.
Les temps ont changé. Marcoussi, c'était il y a 2 ans et maintenant nous sommes en 2004. Les gens sont fatigués. Il y a donc une volonté du côté des officiels mais aussi du côté de la société civile. Nous avons mis en place en Côte d'Ivoire une commission des droits de l'homme dont la mission est de relever les violations, le cas échéant, à la suite des atrocités qui ont eu lieu dans le passé. Je ne veux pas anticiper bien sûr sur les travaux du Conseil de sécurité mais je rappelle qu'il peut à tout moment prendre des mesures. Et puis bien sûr, nous devons garder à l'esprit que la première enquête de la Cour pénale internationale se tient en Afrique, c'est en République démocratique du Congo et ce n'est pas très loin d'ici.
En novembre de la même année 2004, on assiste à une recrudescence des tensions entre les parties prenantes à cause du retard pris dans le processus de désarmement de rebelles qui devait être supervisé par les forces de l'ONU et la France présente sur le terrain selon les dispositifs de l'accord de Lina Marcoussi. Les avions militaires du gouvernement bombardent des positions rebelles dans le nord du pays. Le 6 novembre, ils attaquent une base française à Boaké, tuant 9 Français et un Américain. Un bombardement dont Laurent Gbagbo niera toujours la responsabilité et qui fait encore l'objet d'une interminable enquête judiciaire en France.
Ces images ont été tournées à Boaké quelques minutes avant le bombardement des forces françaises par l'aviation Fancy, les forces armées ivoiriennes fidèles au président Gbagbo. De Tsukhoï, des chasseurs de fabrication soviétique effectuent un premier passage de reconnaissance, puis un piqué, avant de larguer leurs roquettes.
Et nous sommes venus à 200 mètres, et c'est à partir de là qu'on a pris les images. Arrivé sur le lycée français, il a lâché 2 ou 3 obus sur le lycée français.
Le caméraman cherche à nouveau les 2 bombardiers dans le ciel, en vain. Puis c'est la course vers le lycée Descartes, le QG français, où les bombes ont détruit plusieurs bâtiments.
Rends l'hôtel, on peut en trouver.
Allez chercher pour l'hôtel. Il y a tout qui va brûler là. Allez chercher les citernes.
Il faut aller chercher les citernes.
En représailles à ces attaques sur leur base, l'armée française anéantit l'aviation ivoirienne et cloue tous ses avions au sol, ce qui déclenche des émeutes à Abidjan.
La salle est surchauffée. C'est Charles Blégoudé qui fait son entrée. C'est le chef des patriotes. Ces bandes parfois armées, pro-Gbagbo, qui tiennent les rues d'Abidjan. Première attaque photo à l'appui contre l'armée française, accusée d'ingérence en Côte d'Ivoire.
Voilà la mission de paix des soldats français en Côte d'Ivoire. Voici le symbole de la mission de paix. Est-ce parce que nous sommes noirs qu'on peut nous traiter de la sorte sans qu'aucune organisation des droits de l'homme ne réagissent dans le monde?
On n'a plus besoin de blancs.
Je suis encore du
bon.
Alors que l'ONUSI déploie ses forces dans les rues de la capitale pour stabiliser la situation, le Conseil de sécurité adopte à l'initiative de la France la résolution 1572 qui condamne les attaques du gouvernement et établit un embargo sur la vente d'armes à la Côte d'Ivoire. Kofi Annan s'implique singulièrement dans la résolution de cette crise qui secoue la Côte d'Ivoire. Il est de tous les grands rendez-vous sur cette question.
Essentiel qu'ils doivent réconcilier, doivent dialoguer et travailler ensemble pour sauver les pays. Il n'y a pas une solution militaire, donc ils sont obligés de trouver un moyen de vivre ensemble et d'arrêter la crise.
Est-ce que vous demandez, comme Abdou Diouf, au président Gbagbo, de réformer la loi électorale par la voie parlementaire ?
Je crois qu'il doit suivre l'accord de Makusi et Accra 3. Tout est clair dans ces deux documents.
Après le massacre de Gagnoa, où 16 villageois ont été tués, Kofi Annan confirme personnellement qu'une liste de 95 Ivoiriens passibles de la Cour pénale internationale pour des exactions commises depuis 2002 a été établie. On y retrouve des proches de Laurent Gbagbo, mais également des leaders de l'ex-rébellion, dont Guillaume Soro en personne. En décembre 2005, Charles Konan Bani est nommé Premier ministre à la tête d'un gouvernement de transition. Ce sont les dispositions de la résolution 1633 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui maintiennent Laurent Gbagbo, dont le mandat est arrivé à terme, à la tête de l'État pour 12 mois maximum. Dans le même temps, l'Assemblée nationale est considérée comme ayant achevé son mandat. Des manifestations de rue dégénèrent à Abidjan et le siège de l'ONUCI est attaqué par des jeunes patriotes liés au FPI de Laurent Gbagbo. Kofi Annan réagit personnellement.
Les jeunes patriotes doivent rentrer chez eux et ne peuvent pas continuer à attaquer les troupes onusiennes ou bien la population. Ils sont là pour aider. La police et l'armée doivent pouvoir intervenir pour calmer la situation. Le président m'avait indiqué qu'il est en train de la faire, il a donné les ordres, les choses doivent se calmer.
En même temps que la Côte d'Ivoire, la Centrafrique qui n'en finit pas de se déchirer est une préoccupation pour Kofi Annan, qui reproche aux pays voisins de ne pas se mobiliser pour apporter une réponse à ce qui s'y passe.
Je sais que les peuples sont fatigués et veulent la paix. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs chefs d'État dans la région et je crois qu'eux aussi le veulent. Et j'ai l'impression que on commence à comprendre qu'on ne peut pas s'asseoir dans son coin et dire que mon pays est en paix, c'est l'autre. Parce qu'on est tous touchés par cette image d'Afrique, Afrique comme un continent en crise. Ça fait peur aux investisseurs et donc tout le monde paye. Et je crois que maintenant, les gens commencent à comprendre qu'on doit travailler ensemble.
Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien et ami de Kofi Annan.
Et il m'a demandé de revenir. Et il m'a donné de grandes missions. D'abord, une dont je suis très content, ouvrir le bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, avec en plus de trouver une solution aux différents frontaliers entre le Cameroun et le Nigeria.
Évidemment, là, nous sommes dans les mains des États membres. Il nous faut des troupes, il nous faut des équipements et logistique. On va essayer d'aller aussi vite que possible. Évidemment, ça suppose aussi que le gouvernement soudanais va coopérer pleinement pour nous permettre vraiment d'aller au Darfour pour aider la population.
Je crois qu'il est urgent de concentrer notre attention sur la situation au Libéria parce qu'aujourd'hui, le Libéria est suspendu entre espoir et désastre. Et je pense que nous pouvons vraiment sauver la situation si des troupes sont déployées rapidement et de toute urgence.
Le Darfour, le Libéria, l'Éthiopie, la Somalie. Kofi Annan est sur tous les terrains de conflit qui secouent l'Afrique en cette première moitié de la décennie 2000. Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères, ami de Kofi Annan.
Le Soudan, ça a été un choc pour lui parce qu'il y avait de grandes violations de droits de l'homme contre des populations qui sont de même ethnie, qui parlent les mêmes langues, mais certains disent qu'ils sont arabes, d'autres disent qu'ils sont purement africains. Alors que la différence de couleur est presque Béchir en Europe serait un noir.
Oui. It is high time to conclude the negotiations between the government of Sudan.
Il est grand temps de mettre un point final aux négociations entre le gouvernement soudanais et le mouvement pour la libération des peuples du Soudan et de commencer à appliquer les accords. Le retard dans les négociations affecte non seulement le Sud, le conflit dévastateur du Darfour en est une terrible illustration. Il n'y a pas de temps à perdre. Cet accord nous donnerait aussi une base pour la résolution des autres conflits. La formation d'un gouvernement de coalition Nord-Sud au Soudan pourrait donner plus de poids à la recherche d'un accord au Darfour ou ailleurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'insiste encore sur l'importance de la réussite du processus de Naivasha. Je suis sûr que dans la résolution que vous adopterez sur le Soudan, vous ferez tout pour qu'il y ait un accord global de paix avant la fin de l'année.
Before the end of the year. Kofi Annan est un artisan de la CPI, la Cour pénale internationale.
Tous ces efforts, c'est pour protéger les victimes, les sans-voix, les petits. Parce qu'on entend parler de beaucoup de bruit, mais c'est pour la protection des leaders. Je n'ai pas entendu des leaders parler de protection et justice. pour des milliers et des milliers d'Africains qui ont perdu leur vie, qui ont été blessés, qui étaient obligés de fuir leur foyer. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux qu'il faut la justice.
Je suis soulagée d'apprendre que les deux Libyens sont arrivés sains et saufs aux Pays-Bas. Cette petite phrase de Kofi Annan en dit long sur les tractations longues et difficiles menées par l'ONU, par Nelson Mandela et d'autres pour persuader Tripoli de livrer les deux suspects à la justice écossaise. En effet, la Libye qui avait pourtant obtenu que ses deux ressortissants soient jugés en terrain neutre par une cour écossaise et selon le droit écossais, continuait d'exiger d'ultimes garanties. Garanties non seulement sur la sécurité des deux hommes, mais également sur la levée des sanctions. C'est aujourd'hui chose faite. Au plan sécurité, les deux Libyens seront surveillés par des observateurs de l'ONU, ainsi que l'explique Kofi Annan.
Oui, je vois. En tout cas, on va être là pour quelques temps. Et franchement, je ne peux pas vous répondre si on va être là. Tout en même, en tout cas, pour quelques temps. Je crois qu'on doit être là pour suffisamment longtemps pour assurer le gouvernement libyen, les autres, qu'on maintient notre promesse.
Le moment est venu d'instaurer un nouveau type de relation entre le secrétariat et les États membres. Aujourd'hui, je demande aux fonctionnaires et aux États membres d'ouvrir avec moi cet esprit. Vous êtes en droit d'attendre la même chose de moi.
Après deux mandats à la tête de l'ONU, Kofi Annan cède sa place à Ban Ki-moon. C'est l'ensemble du monde diplomatique qui salue son bilan. Lors de son dernier discours de départ devant un public américain, en tant que secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan va se montrer très sévère envers le président des États-Unis, George W. Bush, et sa politique. Dans la bibliothèque Harry Truman à Independence, dans le Missouri, Kofi Annan rappelle l'héritage de ce même Harry Truman, un des fondateurs des Nations Unies qui disait « La responsabilité des grands États est de servir les peuples du monde, pas de les dominer ». Fin de citation. Sans jamais prononcer le nom de George W. Bush, il critique en filigrane sa politique. Par le passé, l'Amérique a été à l'avant-garde du mouvement mondial pour les droits de l'homme. Mais, pour ce pays, la seule manière de rester en tête sera de se montrer fidèle à ses principes jusque dans la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. Ces déclarations vont choquer les conservateurs américains. Mais dans l'instant, le prix Nobel de la paix, déchargé de la fonction de secrétaire général, aspire à un peu de liberté et de repos. Il trouve refuge pour quelque temps dans un village reculé du pays de sa femme, en Suède.
Après mon départ, ma femme et moi sommes allés nous reposer dans la région de Côme. Nous avons emprunté la maison d'un ami et voulions nous y reposer 3 mois. Pas de télévision, pas de radio et pas de journaux. Après 6 semaines, je commençais à m'ennuyer. Alors j'ai dit à ma femme, allons au village acheter un journal. Nous sommes entrés dans le bureau de tabac et quelques minutes plus tard, j'ai remarqué un groupe d'hommes qui ne nous lâchait pas du regard. L'un d'eux a commencé à marcher vers nous. Je me suis alors tourné vers ma femme et lui ai dit, mon Dieu, il nous reste 6 semaines ici et nous avons été découverts. Comment allons-nous faire ? À ce moment-là, l'homme en question était arrivé à ma hauteur. C'est alors qu'il me tend la main et dit « Morgan Freeman ?» Puis-je avoir un autographe ?» Je lui ai répondu « Bien entendu, j'ai signé K. Freeman. » Il était heureux et ma femme et moi avons gardé notre anonymat et continué notre travail. En faisant bien sûr plus attention.
Difficile pour le diplomate de passer incognito sur l'ensemble de la planète. Difficile pour lui aussi de se faire oublier. Très rapidement, le monde de la diplomatie va faire appel à ses qualités de négociateur. La retraite, ce n'est pas pour tout de suite comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Oui, enfin, c'est la liberté. Je peux choisir ce que je veux faire. Je peux dire ce que je pense sans forcément provoquer une réaction d'un tel état ou bien l'autre état.
Après deux mandats à la tête des Nations Unies, Kofi Annan, en ce début d'année 2007, croit qu'il peut enfin se lâcher, parler sans s'inquiéter des conséquences que cela pourrait provoquer. Mais en a-t-il vraiment fini avec la diplomatie? Peut-il vraiment se retirer de cet environnement? Rien n'est moins sûr.
Je pars convaincu que l'action des Nations Unies aujourd'hui est plus que jamais importante. Elle est aussi plus que jamais efficace. Cependant, notre travail est loin d'être achevé. Il ne le sera jamais.
Suite et fin de notre série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Lorsque l'on a été aussi longtemps sur le devant de la scène, que l'on a si souvent contribué à faire la paix, à mener des médiations dans le monde, difficile d'aspirer à la retraite. Même s'il s'est installé à Genève, Kofi Annan va très rapidement être sollicité. Il est nommé le 14 juin 2007 à la tête de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, l'AGRA, un organisme créé en 2006, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Rockefeller, et regroupant des dirigeants politiques, des hommes d'affaires, des agriculteurs et des chercheurs. Le but de l'Alliance est d'aider les paysans africains à améliorer leur rendement.
Aujourd'hui, je suis aussi très actif dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un groupe qui s'appelle l'Alliance pour la Révolution verte et notre objectif est de travailler avec les petits agriculteurs africains pour augmenter leur production et aller au-delà de la simple subsistance, faire en sorte qu'elles se considèrent comme des femmes d'affaires. Je dis des femmes parce que la plupart des agriculteurs sont des femmes. Leur objectif doit être de pouvoir nourrir leur famille, mais aussi vendre leurs produits et à terme permettre à l'Afrique de faire partie du système mondial de sécurité alimentaire. Et c'est tout à fait faisable. Si nous parvenons à doubler notre production, nous aurons beaucoup de surplus. Mais nous essayons d'aller au-delà de cette réalité, car 60% des terres arables se trouvent encore en Afrique. Si nous parvenons à nous organiser nous-mêmes, nous espérons pouvoir compter sur cette armée de petits agriculteurs et établir des liens avec des fermes commerciales. Nous devrions ainsi pouvoir nourrir les gens et faire en sorte que nous atteignions au moins un de nos objectifs de développement.
4 octobre 2007. Kofi Annan devient le nouveau président de la Fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture, la plus importante coalition internationale d'ONG active dans la protection des droits de l'homme dans le monde. Elle regroupe 282 membres dans 92 pays, et ce, afin de contribuer à la prise de conscience de l'érosion du respect des droits de l'homme et des normes internationales, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et des politiques sécuritaires. Il préside également, à partir de sa création en 2007, l'African Progress Panel, qui rassemble des personnalités internationales, notamment Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, Bob Geldof et Michel Camdessus, engagés dans la défense du continent africain et chargés notamment du suivi des engagements du sommet du G8 de Green Eagles de 2005.
En ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, nous avons réussi à les amener à réduire considérablement le coût des médicaments afin que les populations les plus pauvres puissent les acheter. À l'époque, il y en avait pour $150,000 par an et nous avons réussi à les faire descendre pour l'Afrique à $150. Dans le cas des médicaments contre la transmission de la mère à l'enfant, qui, pour moi, est la pire forme de transmission, la plus maléfique, ils ont accepté de les rendre gratuits. Pourtant, lorsque nous avons réussi à les réunir pour la première fois dans une salle de conférence à Amsterdam, avec le responsable de l'Organisation mondiale de la santé, et que j'ai commencé à leur parler de la réduction des coûts des médicaments, notre échange était pour le moins intéressant. Un des membres du conseil a dit « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, je n'ai pas mon avocat avec moi. » Je lui ai répondu qu'il n'avait pas besoin d'un avocat et un autre a déclaré « Nous pourrions être accusés de fixation des prix. » La fixation des prix, je lui ai alors répondu, c'est quand vous complotez pour augmenter vos profits. Ici, Je vous demande de perdre des profits. Je vous demande de perdre de l'argent. Donc personne ne vous le reprochera. Et en fin de compte, ils ont accepté. Il faut dire qu'à ce moment-là, ils étaient en procès contre Nelson Mandela. Ils l'avaient emmené devant un tribunal sud-africain parce qu'il avait menacé d'utiliser la licence obligatoire pour produire une version générique du médicament destinée à aider les plus pauvres. Mon conseil pour eux avait été: je ne sais pas qui est votre responsable des relations publiques, mais ce doit être un vrai génie pour aller poursuivre Mandela en Afrique du Sud sur un sujet comme le traitement contre le VIH-Sida. Si vous perdez, vous perdez. Mais si vous gagnez, vous perdez aussi. Vous n'en sortirez pas indemne. Et vous feriez mieux de régler ça en dehors du tribunal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réglé l'affaire en privé et au final pris la bonne décision.
Quand Kofi Annan prend ses fonctions à la tête des Nations Unies en 1997, l'épidémie de sida est au plus fort. 24 millions de personnes sont atteintes. On compte 3,5 millions de nouvelles contaminations et plus d'1 million de morts chaque année. Le traitement antirétroviral, lui, n'est presque disponible que dans les pays riches. Kofi Annan va fortement s'impliquer dans la bataille. En 2000, il fait se réunir le Conseil de sécurité de l'ONU qui adopte la résolution 1308. Elle identifie le sida comme une menace pour la sécurité internationale. Sous l'égide de son secrétaire général, les Nations Unies l'affirment donc, la lutte contre l'épidémie est l'affaire de tous. Ce principe sera consacré l'année suivante, en 2001. Kofi Annan réunit pour la première fois une session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée spécifiquement au VIH-Sida. Session au cours de laquelle il en appelle à la solidarité internationale et à la création de ce qu'il nomme alors un trésor de guerre. Un appel qui a débouché sur la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, un mécanisme de financement nourri par les pays riches qui permet aujourd'hui de développer les offres de traitement et de prévention dans les pays qui n'en ont pas les moyens. On estime aujourd'hui à près de 9 millions le nombre de personnes qui en bénéficient.
En centre-ville, en fin d'après-midi samedi, la plupart des magasins sont fermés. Une commerçante explique qu'elle n'a pu ouvrir qu'une heure en tout et pour tout, simplement parce que des groupes armés de machettes se sont affrontés dans les rues. La police a sorti l'arsenal et tiré à vue. À l'hôpital général de Nakuru, Grace Onia, l'infirmière en chef, ne sait même pas combien elle a reçu de blessés aujourd'hui.
Ils sont vraiment nombreux. Je ne pourrais même pas vous dire combien là tout de suite. Ils sont emmenés par des gens qui passent, des bons samaritains. Certains sont blessés par des flèches, d'autres par des balles ou encore par des machettes.
En cette fin de mois de janvier 2008, après l'annonce de la victoire contestée de Mwai Kibaki contre Raila Odinga, des affrontements communautaires éclatent entre les tribus Kikuyu d'un côté et Kalenji et Luos de l'autre. Bilan plus de 1000 morts et 600 000 déplacés. Après de multiples tentatives de médiation, l'Union africaine fait appel au talent de diplomate de Kofi Annan pour tenter d'éteindre l'incendie des violences post-électorale.
Nous ne sommes pas venus avec une solution clé en main, nous sommes venus pour contribuer à trouver une solution dans l'intérêt du Kenya et de son peuple, mais également dans l'intérêt du continent africain. Je suis confiant sur la bonne volonté, la maturité, l'esprit d'ouverture dont feront preuve les parties concernées. Nous espérons que les deux parties entameront un dialogue sincère et qu'elles verront en cela une occasion d'en finir avec la souffrance du peuple kenyan.
Les négociations sont difficiles, mais le diplomate a de la ressource. Il n'entend pas capituler.
Je resterai aussi longtemps qu'il le faut pour mener ce processus jusqu'à un point irréversible. Un point irréversible, cela signifie aller jusqu'au bout du calendrier des négociations et travailler avec eux afin de s'assurer de la formation d'un nouveau gouvernement.
Kofi Annan va réussir à mettre autour de la table le président sortant Mwai Kibaki et l'opposant Raila Odinga. Il parvient à arracher en quelques semaines un accord de partage du pouvoir entre les deux hommes au sein d'un gouvernement d'union nationale. Au terme de difficiles négociations, les deux parties acceptent également la mise en place d'une nouvelle constitution, ainsi que d'une commission vérité, justice et réconciliation. Le pari est réussi.
Nous pensons que cet accord ramènera la paix et la prospérité aux habitants du Kenya, qui le méritent tellement. Laissons l'esprit de la guérison commencer aujourd'hui. Dans toutes les négociations qui obtiennent un succès, il y a toujours des partisans des deux camps, estimant que leurs négociateurs ont cédé trop de choses. À cela, je voudrais dire que le compromis était nécessaire à la survie de ce pays.
Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, ancien diplomate, ami de Kofi Annan.
C'est une période que je connais bien parce que je me trouvais au Kenya depuis octobre. L'élection a lieu novembre ou décembre et il est venu et ils ont fait un arrangement. Parce qu'ils voulaient éviter cette guerre. Il y a des présidents de la région qui ne voulaient pas d'un arrangement. Vous savez, c'est toujours la même chose. La guerre profite à certains. Donc, Kofi Annan a pu s'entendre avec Kari, le président de, qui était contesté, Kibaki.
Moi, Kibaki.
Et Odinga pour trouver un arrangement. Et toute la société civile et une partie de l'opinion Kenyan proche du président en exercice était pour. Mais il y a un chef d'État africain de la région qui n'en voulait pas. Ils avaient peur qu'un arrangement puisse avoir des effets de contagion. Et ça a été une surprise pour Kofi Annan. Et il m'avait dit, j'ai fait un arrangement et un autre président, au lieu d'en bénéficier ou l'appuyer, a fait le contraire.
Le jeune retraité n'est pas prêt de prendre du repos. Il va créer la fondation Kofi Annan, dont l'objectif est de mobiliser la volonté politique pour vaincre les menaces pesant sur la paix, le développement et les droits de l'homme.
On fait les médiations, des gouvernances et surtout des élections avec intégrité. Parce que normalement, des élections, c'est pour nous aider à changer les leaderships. Mais aujourd'hui, ça crée des conflits. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tous ces genres de conflits après des élections? On lutte aussi contre la pauvreté. On travaille beaucoup avec des paysans africains pour augmenter leur production.
Il est particulièrement actif au sein de cette fondation et s'engage pour la protection de l'environnement.
We must not forget.
Nous ne devons pas oublier que l'Afrique peut et doit faire partie de la solution au changement climatique. Le continent subit déjà les conséquences désastreuses. Pourtant, c'est la région qui contribue le moins aux émissions de gaz. En 2012, l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, n'a émis que 2% des gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. Sans mesure, le changement climatique transformera des zones entières de terres arables en poussière et il y aura des famines et un exode rural massif.
Kofi Annan est également nommé président de l'ONG Global Elders, un groupe de sages universels qui œuvre pour la paix et les droits de l'homme dans le monde. Parmi eux figurent notamment Monseigneur Desmond Tutu, Jimmy Carter et Nelson Mandela jusqu'à sa mort. C'est dans ces circonstances qu'il effectue un déplacement en Côte d'Ivoire.
Nous sommes venus comme un groupe de sages pour soutenir les pays, la population, les gouvernements et la réconciliation et reconstruction du pays. Vous avez vécu une expérience très difficile et compliquée. Il n'y a qu'un seul Côte d'Ivoire. Il faut travailler ensemble pour construire ce pays.
Le 23 février 2012, Kofi Annan est nommé envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe pour la crise syrienne. Il se mobilise comme de coutume.
L'ONU m'avait donné un mandat d'essayer de trouver une solution politique et pacifique. Mais voilà les complications. Tous les membres du Conseil de sécurité ont voté pour cette résolution. Peu après, trois membres permanents du Conseil de sécurité deviennent membres des amis de la Syrie, avec un mandat tout à fait différent pour faire, si vous voulez, une autre Libye.
Mais il va faire face aux égoïsmes des grandes puissances sur la question.
Et cela s'est produit une autre fois. Lorsque nous avions besoin que les États-Unis et la Russie collaborent avec d'autres pays pour résoudre le conflit syrien. Tant qu'ils seront là et qu'ils seront en conflit, nous ne ferons pas de réel progrès.
Libye, c'est différent. Libye, c'est différent parce que d'abord, il y avait un mandat du Conseil de sécurité. Tous les cinq ont voté pour le mandat. Peu de temps après, les Russes et les Chinois se sont, disons, déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils disaient que le mandat était pour protéger la population.
Et non pas pour intervenir militairement.
Militairement, pas seulement ça, pour régime change, pour faire tomber Gaddafi. Et ça, on va payer cher comme communauté internationale. Ça a compliqué ma rôle en Syrie.
Bien sûr.
Par exemple, quand j'ai parlé d'embargo sur les armements, les Russes et les Chinois disent « ça commence par des notes libres ».
Voilà, bien sûr. On nous a déjà fait le coup. C'est un peu ça qu'ils disent.
C'est ça. Mais ils n'avaient pas tort. Parce qu'il y avait certains États qui croient qu'ils allaient faire la même chose en Syrie.
Devant l'hypocrisie des grandes puissances, donc, Kofi Annan choisit de démissionner de ce poste moins de 6 mois plus tard.
J'avais espéré que ma démission aurait envoyé un message puissant au Conseil. Vous devez travailler ensemble et parler d'une seule voix. Je suis heureux de l'avoir fait. C'était très difficile parce que je souffrais pour le peuple syrien et pour cette destruction qui était en cours. Mais j'ai fini par comprendre que ceux qui m'avaient confié ce travail n'étaient pas aussi sérieux que je le pensais. Le médiateur ne peut pas vouloir la paix plus que les acteurs du conflit, plus que le Conseil de sécurité qui lui a confié le poste. Vous savez que nous, je... Nous nous sommes rencontrés à Genève le 12 juin 2012. Et nous avons rédigé un communiqué que tout le monde a signé. Lavrov, Fabius, Hillary Clinton, ils devaient ensuite se rendre à New York et travailler ensemble pour résoudre le problème syrien. Honnêtement, je pensais à l'époque que la seule façon de résoudre le problème syrien, c'était que tous les protagonistes arrivent à la conclusion, une conclusion qu'ils auraient dû atteindre il y a longtemps, qu'il n'y aurait pas de vainqueur et que ce serait destructeur pour tous. Ils devaient se réunir. Il leur fallait s'accorder sur un cadre commun et résoudre ce conflit. C'est ce qui s'était passé en 1648 après la guerre de 30 ans, lorsque les Européens se sont unis et que le traité de Westphalie a été signé. Un traité avait été atteint et tout le monde s'était accordé à dire « Mettons un terme à ces tueries et mettons-nous d'accord ». La même chose aurait dû se passer. Mais ceux qui m'avaient confié le poste n'étaient eux-mêmes pas prêts. C'est alors que j'ai décidé que s'ils n'allaient pas donner suite aux décisions prises à Genève 2 semaines plus tard, ce qui nous aurait permis d'aller de l'avant, c'est bien qu'ils n'étaient pas sérieux.
Et maintenant, des nouvelles des Nations Unies. Le secrétaire général Kofi Annan est décédé à l'âge de 80 ans. Il serait décédé dans son pays d'origine, au Ghana. Annan avait remporté le prix Nobel de la paix pour son travail humanitaire en 2001. L'ONU a publié une déclaration à ce sujet. Nous allons maintenant vous la lire. C'est avec une immense tristesse que la famille Annan et la fondation Kofi Annan annoncent que Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé paisiblement samedi 18 août après une courte période de maladie. Son épouse, Nan, et leurs enfants, Ama, Kojo et Nina, étaient à ses côtés lors de ces derniers jours.
Ce jeudi 18 août 2018, Kofi Atta Annan a tiré sa révérence. Son corps va être rapatrié au Ghana où 3 jours de deuil national sont aussitôt décrétés. Il va être dignement enterré dans son pays devant des personnalités venues du monde entier pour lui rendre un dernier hommage.
Je crois que le message que je vais lui donner, c'est de ne pas être désespéré, de garder l'espoir et le courage. Je crois que c'est vrai que nous, les aînés, ne les ai pas toujours bien servis. Il y a un proverbe africain qui dit « Le monde n'est pas pour nous, c'est un trésor qu'on garde pour nos enfants et pour les enfants. » Parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes pas à l'auteur.
C'est par ce message d'espoir que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Vous pouvez évidemment réécouter toute la série sur le site de RFI, à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.